recherche très très pluridisciplinaire. Ça pose des tas de questions, mais comme vous l'avez dit, on est au début.
Hein. Tout début.
Et c'est vrai que c'est caché, là. Moi, quand j'avais découvert cette chose en tant qu'épigraphiste, je me disais, c'est fait pour broyer des choses ou quoi? Mais si j'ai bien compris, ça sert à ça aussi, mais ça sert à marquer les choses qu'on broie.
Ah, ça sert d'abord à marquer les choses.
Ça sert à marquer les choses qu'on broie, mais en même temps, vous avez des traces de broyage dessus.
Enfin, je ne suis pas encore sûre, mais les cachets, celui qui circule...
Les analyses prouvent qu'il y a des... De toute façon, il est normal que quand on imprime quelque chose dans une pâte, il reste aussi de cette pâte sur d'infimes parties de cette pâte sur la pierre en question. Moi, j'ai plein de questions à vous poser. Je les prends dans l'ordre. Quand vous avez dit qu'il y avait l'aversion pour les borgnes, sauf pour Antigone, le borgne, Monophthalmos, et sauf pour Homère, qui était lui alors plus que borgne. Et d'ailleurs, j'ai appris que Péra, que Homéros, ce n'était pas le seul mot pour désigner l'aveugle, mais que Péra aussi était un autre mot, sans doute. Et alors moi, ce qui m'étonne totalement, c'est que vous n'ayez pas de cachet grec.
Il y a un cachet. Celui qui circule est en latin, écrit en grec. Par exemple, vous avez le mot claritudinem, qui est vraiment latin, qui est écrit en caractère grec.
Les Romains.
Ah, voilà, c'est une spécificité romaine.
Oui, c'est très étonnant.
Enfin, gallo-romaine,
peut-être. Pas dans le monde grec, je veux dire. Et avant même le 1er siècle, quand vous dites on comprend que ça commence au 1er siècle...
J'ai des hypothèses.
Parce que la science hellénistique est bien supérieure à la science des Romains. Enfin, les Romains pratiquent une science hellénistique. Donc, je ne serais pas étonné qu'à Alexandrie, à Pergame, à Antioche, il y ait eu des gens particulièrement doués et qui a appris aux petits Romains à confectionner des collyres. Mais peut-être qu'on ne les a pas recueillis, mais c'est très étonnant parce que c'est quand même des objets de collection indestructibles, ces pierres-là. Elles sont difficilement... On peut difficilement passer à côté.
Oui, on en a trouvé beaucoup dans des tombes franques, par exemple.
Donc, et c'est très étonnant qu'on en ait surtout en Gaule. Il y en a en Grande-Bretagne.
Beaucoup.
Oui. Il y en a sur le limès germanique. Il y en a, c'est ça.
Ouais.
Les médecins militaires, en quelque sorte.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Mais, d'accord. Je ne vais pas monopoliser.
Pour vous répondre, alors, pour les borgnes, pour la représentation, Philippe de Macédoine avait un problème à l'œil. Et il est toujours représenté de profil parce qu'il ne voulait vraisemblablement pas montrer qu'il avait un problème oculaire sur les monnaies. Pour Homère, on a des textes qui montrent que c'est une exception. On a aussi des philosophes qui sont exceptionnellement aveugles mais intelligents. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Et pour la spécificité gauloise... je suis entièrement d'accord avec vous, mais justement, je pense que les Romains, alors je vais aller dans le sens de ce qu'on dit habituellement, que les Romains sont des grosses brutes et que les Grecs ont tout inventé, mais je suis une helléniste au départ. En fait, les Romains ne partageaient vraisemblablement, la majorité des praticiens romains ne partageaient vraisemblablement pas les connaissances anatomiques qu'on connaît par Cels. Et c'est pour ça qu'on a des ingrédients un peu magiques qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on sait sur l'école d'Alexandrie. Je ne suis pas sûre qu'on retrouve des cachets dans le monde grec ou alors dans le monde grec postérieur, enfin plus grec quoi, mais romain. Mais on a par exemple un texte de Galien qui nous dit qu'il est allé acheter à Lemnos 20 000 collyres, 20 000 remèdes, pardon, mais 20 000 remèdes imprimés, donc des collyres. Il en a acheté 20 000. Il s'est déplacé parce qu'il ne voulait pas avoir de remèdes falsifiés. Donc on a le... C'est pour ça que je pense que les oculairiers ne sont pas des médecins, pour le dire franchement.
Ah, les oculairiers ne sont pas des médecins. La question de savoir aussi si c'était les oculariers qui fabriquaient les collyres ou bien s'il y avait des apothicaires
Choses de genre. Alors en fait, sur les inscriptions, il y a le nom au génitif de l'utilisateur, peut-être aussi du possesseur, mais vraisemblablement de l'utilisateur. Et il y en a qu'un sur les 350 à peu près qui se qualifie de médici. Et c'est tout, un seul. Et les autres, il y en a trois qui sont Mercatoris marchands. Et voilà, ils ont des divinités médicales. Ils se réclament de divinités médicales, mais ce sont vraisemblablement des vendeurs de drogue, des pharmacopoles.
Je m'étais demandé aussi si le fait que de trouver beaucoup de ces cachets en Gaule, ça venait pas du fait que la matière première aurait pu se trouver en Gaule, parce que la pierre de Thèbes, c'est bien gentil, mais il n'y en a peut-être pas qu'à Thèbes.
Alors, c'est ce que les chercheurs se sont dit. Voilà. Mais voilà, ce n'est en tout cas aucune pierre répertoriée dans la base de données du Louvre, qui est quand même très conséquente. C'est la plus grosse au monde.
Ouais.
Donc, c'est un matériau extrêmement rare.
Alors, j'ai mal entendu peut-être pour le verre. Ça vient d'où Oui. Le verre, la qualité du verre, enfin, l'utilisation de la couleur verte.
Alors, la première attestation que j'ai trouvée, c'est dans le corpus aristotélicien.
Ah oui, c'est ça.
Voilà, mais on le trouve aussi. Marc Aurèle dit qu'il a mal aux yeux et qu'il regarde les yeux du verre. On a aussi, je ne sais plus qui, Vitruve, qui dit qu'il faut construire des bibliothèques avec des pavements verts, parce que comme ça abîme moins les yeux des lecteurs.
Les gens qui mettent du rouge pompéien partout...
Et le verre, j'ai demandé à l'ophtalmologue, ça fatigue les yeux.
Une dernière chose en ce qui me concerne, c'est, je vous signale, vous avez montré la tombe de Saint-Médard-des-Prés.
Oui.
Alors ça, c'est une histoire.
Je vais essayer de la retrouver.
Une légende qui dit que ça serait sans doute la première femme occulte.
Ah non, c'est pas une légende, non. C'est moi qui ai essayé de démontrer ça.
Non, j'ai dit la légende de votre document, mais la découverte est du 19e siècle, c'était Benjamin Fillon. Et
oui.
C'est sur la commune de Fontenay-le-Comte.
C'est
et
vrai
on
que
la qualifie
chez vous,
aussi
j'ai
de
pas
femme
pensé.
Peintre.
Oui,
peintre.
Bien sûr, j'ai fait toute une communication là-dessus.
Vous avez parlé de Chevreul. Chevreul a fait des analyses sur Saint-Médard-des-Prés.
Oui, tout à fait.
Pour savoir si. Et d'ailleurs, le mobilier.
Et le site de RMF aussi.
Oui. Et le mobilier conservé, d'ailleurs.
À Fontenay, oui.
Il est.
Fontenay-le-Comte.
Non, la trousse, elle est à.
Si.
Non, la trousse que vous avez représentée ici, elle a été publiée par Kunzel.
Aussi, oui.
Elle est à Saint-Germain ?
Non, elle est à Fontenay.
Ah, c'est à Fontenay.
Oui,
oui tout à fait.
Mais elle est publiée dans le catalogue de Kunzel sur les trousses médicales.
C'est ça, oui, c'est ça. Mais il faudrait pouvoir analyser ce qu'il y a dedans.
Ça a été fait par le C2-RMF.
D'accord.
Voilà.
Et donc, c'est d'oculiste.
Alors, on a dit que c'était une femme peintre. Oui, alors la femme peintre, on peut presque dire que c'est sûr, parce qu'il y a de l'or piment, et cette matière n'a jamais été utilisée en peinture murale. Apparemment, d'après les chercheurs, c'était pas un peintre. Bon. Et puis, après, on a dit que c'était une femme coquette, hein, qui avait une esthéticienne, oui. Voilà, mais très riche quand même, ce qui est... Et en pleine campagne. Donc, pour la clientèle, c'est un peu difficile. Et puis, il y a un chercheur qui m'a suggéré que c'était peut-être une trousse d'oculiste, enfin, d'ocularius. Et en fait, on ne peut pas distinguer, parce que dans l'Antiquité, on ne peut pas distinguer les phares des colliers. Donc, il y a même, chez Pline, il dit qu'il y a un collier qui s'appelle Caliblepharon, qui a de très belles... qui rend les yeux des femmes très, très beaux, et qui a des vertus thérapeutiques. Et ce sont exactement les mêmes ingrédients. Donc le C2-RMF, qui travaillait sur les phares, sur la beauté, a analysé, et voilà, et ça donne les mêmes résultats que ceux qu'on donne sur les collyres, qui ont sûrement des vertus plus thérapeutiques qu'esthétiques. On saura jamais, enfin, je pense qu'on ne saura jamais. Parce que c'est la même chose. Il y a une autre étude
qui est en cours pour évaluer un petit peu l'ensemble du mobilier.
Ah ben alors, si vous avez les cordes, très très volontiers. Et puis je leur soumettrai mon hypothèse. J'ai essayé de prouver, chacun prêche pour sa paroisse, donc moi j'ai essayé de prouver que c'était une oculiste. J'en suis pas sûre non plus, hein, loin de là, parce qu'elle aurait beaucoup d'instruments aussi. Hein. Voilà, aucun instrument n'a une spécificité. Ouais. Je suis très preneuse. Je comptais bien les contacter de toute façon. Pardon.
Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous faire mes félicitations aussi pour cet exposé qui m'a beaucoup intéressée.
Merci.
Et puis tous mes encouragements pour votre projet.
Merci.
Moi, je suis diplômée de géosciences. Donc, j'ai été vraiment passionnée de sciences. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise que vous parliez de roches.
J'ai dû mal en parler parce que je n'ai pas encore les résultats par écrit et je transcris ce qu'on me dit et comme je n'ai aucune compétence...
Continuez, ça va s'éclaircir. C'est très simple. Donc moi, j'aurais une question sur les différents outils du coup, qui étaient utilisés en chirurgie oculaire.
Oui.
Je suppose que vous avez dû un peu les référencer pendant votre thèse.
Oui.
M'interpelle un petit peu à savoir s'ils sont eux aussi... dans matériaux rocheux, minéraux
Ils sont tous en bronze ou en dérivé du bronze ou du cuivre.
D'accord.
Et alors, matériaux rocheux, si on a des palettes qu'on a dit à broyage, et puis les petites pierres, et puis on a aussi des instruments qui avaient sûrement des vertus magiques. On a des haches préhistoriques qui n'ont pas été analysées non plus, mais j'essaie de vous les retrouver. Voilà, ils sont dérivés du cuivre ou du bronze qui sont souvent très ouvrés, très très beaux.
Est-ce qu'ils n'étaient pas assimilés à des bijoux, à une richesse
Alors, ils étaient légués, d'après les textes juridiques, on léguait, les médecins se léguaient par héritage leur collyre, le médicament lui-même, et leurs instruments. Et les instruments qui servaient à les confectionner, c'est ce qui est écrit. Oui. Mais certains médecins se faisaient enterrer, c'est comme ça qu'on en a retrouvé, avec leur trousse. Voilà, ça c'est une trousse tubulaire. Et y avait
pour quelle raison c'était des maîtres? Ils n'ont pas légué leurs outils par une raison bien spécifique?
J'en sais absolument rien, mais voilà, c'était un attribut professionnel, en tout cas c'est clair. Voilà. Et on ne trouve pas systématiquement ces outils avec les cachets. Ce qui montrerait peut-être qu'il y a des gens qui faisaient que des impressions de collyre et des confections. Donc.
Ok, merci. En ce qui concerne les cachets, je n'ai pas trop de questions parce que vous avez été très claire. Par contre, je me demandais, moi, quelle était la limite, l'éthique des chirurgiens oculaires à cette époque-là. Est-ce qu'ils faisaient plutôt de la torture ou vous avez vraiment une éthique, médecine
Alors, au contraire, je pense que c'était. Ils essayaient par tous les moyens d'aider leurs patients. Ce qu'on trouve déjà dans le serment d'Hippocrate. Hein. Mmh. Et c'est pour ça que les Romains n'hésitaient pas à recourir à des thérapeutiques qu'on pourrait qualifier d'occultes. Dansels, qui n'était vraisemblablement, contrairement à ce qu'on dit, pas médecin, mais encyclopédiste, en fait. Honnête homme, hein, et qui connaissait beaucoup de choses. Donc, il a fait, en fait une encyclopédie et on a conservé un des tomes sur la médecine. Donc, on en a déduit qu'il était médecin, mais en fait, il y avait la même chose pour la rhétorique, etc. etc. Et lui, il insiste beaucoup sur les précautions à prendre en touchant l'œil. Et si on lit vraiment à demi-mot ce qu'il écrit, il dit qu'en gros, il ne faut pas essayer, quoi, parce que l'œil est perdu une fois sur deux. Et il le dit bien. Alors après, la torture, dans un autre texte, ce n'est pas de la chirurgie, mais ce sont des remèdes. Il y a un médicament, alors je voulais vous le traduire, puis j'ai oublié, qui est tellement efficace, dont l'effet est tellement puissant, qu'il faut attacher le patient à une échelle, parce que sinon, il ne se laisse pas traiter. Voilà. Alors il y a de la crotte de je ne sais quoi dedans. Voilà, je voulais vous... Là, est-ce que c'est pas de l'acharnement thérapeutique? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a trouvé, si on a trouvé des patients qui acceptaient de se faire traiter. Et puis, en ce qui concerne l'acharnement, il y a un médecin qui, en 1960, a pratiqué sur un patient qui a accepté donc une opération de la cataracte telle qu'on l'a pratiquée dans l'Antiquité, sans lui faire ingurgiter d'opium. Et voilà. Donc, et il ne donne pas à la fin de son article le résultat. C'est-à-dire qu'on, ça a dû réussir, ça c'est sûr, parce que c'était quand même suffisamment aseptisé, mais il ne parle pas de la douleur, surtout de la souffrance du patient. Oui. Oui, donc ça doit... je ne sais pas comment on le pratique, mais c'est vrai que si on pratique en Afrique... Oui, mais on peut mettre de l'opium, quand même. Enfin, voilà, tandis que là, il n'y avait aucun analgésique.
Bon, je vous remercie d'être aussi passionnée. j'aurai plein d'autres questions, mais je vais laisser le micro.
Je ne renouvellerai pas ces félicitations pour ce sujet passionnant et la manière dont vous le traitez. Juste deux petites questions. Est-ce que vous avez, pour votre documentation, regardé les luxueux catalogues de vente publique qui sortent, que les musées reçoivent très régulièrement? dans laquelle j'ai souvenir d'avoir vu passer des cachets. Donc je peux vous déjà feuilleter tous ceux que j'ai au musée, du genre catalogue illustré Sotheby's et compagnie.
Oui,
mais il y en a d'autres
à Vienne,
en Autriche, dans toute l'Europe. Il y a vraiment une masse documentaire exceptionnelle. On se demande d'ailleurs comment tous ces objets sont encore mis sur le marché commercial de tous les jours aujourd'hui, puisque c'est visiblement des objets archéologiques. Donc je suis sûre qu'il y a là une bonne source pour le corpus. Alors il est probable que dans ces ventes, on n'annoncera pas clairement la provenance, l'origine précise et réelle de l'objet, peut-être même qu'on la falsifiera. Mais bon, ça peut être intéressant puisque vous prenez...
ça c'est sûr, à titre
vous faites ça à une grande échelle.
Et il y a deux cachets qui auraient été vendus sur eBay, mais je n'ai jamais réussi à le faire. Alors, on les a vus avec l'alerte, mais on n'a jamais réussi à trouver le vendeur. Et voilà. Alors, on s'est dit que c'était une mauvaise référence pour le livre, l'inventaire précédent, sur les cachets à Collyre. Mais si on a manqué la vente, ils étaient vendus 5 euros.
Ça va être en plus des ventes privées. Enfin, je veux dire, ça part chez des particuliers. Donc là, ils sont quasiment perdus pour la science.
On était là pour...
Alors que l'intérêt des ventes publiques,
avec le clic, donc... mais on n'a jamais réussi à atteindre l'acheteur. Mais je ne saurais jamais si c'était vraiment des vrais cachets. Mais je n'ai pas osé y croire. Maintenant que vous dites qu'il y en a dans les catalogues de vente...
Oui, alors moi, ce que je vais faire, je vais faire des sondages sur ceux que j'ai au musée, sur les quelques exemplaires qu'on a, et puis je vous transmets immédiatement ce qu'on a.
Bah, merci, c'est une excellente idée.
Je pense que dans certaines bibliothèques, ils les ont obligatoirement, peut-être la BN à Paris ou des choses comme ça. Sinon, une question, est-ce que sur des découvertes très récentes, à Chartres et Reims, par exemple, vous avez évoqué, ces cachets sont trouvés associés à quoi ? Est-ce qu'on sait un peu plus, finalement, que les découvertes archéologiques faites depuis des dizaines d'années, où, effectivement, on a tendance à nous isoler le Collyre ? Et, effectivement, la tombe de Fontenay-en-Vendée, par exemple, et, effectivement, ce qui est dommage, c'est que c'est une découverte 19e, mais on ne va pas s'en plaindre. C'est effectivement l'association de tout type de mobilier qui se trouve dans ces mallettes qui va nous donner la clé. Enfin, la clé est là. Alors moi, je suis spécialiste de verre, je m'intéresse beaucoup au flaconnage. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de types de flacons précis assortis à ces cachets ou des choses comme ça ?
Alors, pour je ne me souviens plus de votre première question. Oui, le contexte archéologique. Pour ceux de Chartres, donc c'est en cours d'étude, vraiment. Ils n'ont pas encore publié leur... Nous n'avons pas encore publié les cachets. Et ils n'ont pas encore publié leur étude. Mais ce serait dans un quartier artisanal. Ça pourrait aller dans le sens d'une fabrication en série des cachets. Parce qu'à Bavay, on en a trouvé, je ne sais plus... 9, je crois, tous au même endroit, associés à des tessons de poterie cassés. Et les cachets de Bavay ne sont pas terminés, enfin, ne sont a priori pas terminés.
Et alors, 9 de types différents, ou est-ce qu'il arrive qu'un cachet, qu'on ait le même type de cachet, finalement ?
Comment ça, le même type ?
Même type d'inscription.
On peut avoir le même nom, par exemple, le même nom au génitif, et on peut le retrouver... y en a un en Suisse, par exemple, et il y a le même nom dans le sud de la France. Voilà. Donc il y a sûrement des marchands ou des médecins ambulants, enfin, au sens sans caractère péjoratif de ma part. Et pour les flacons, alors on a des instruments, des petits flacons en verre ou des restes de verre associés au cachet. Et puis on a 2 ou 3 exemplaires, je me suis pas encore penchée dessus, mais de petits flacons avec le mot lithium dessus. Et le lithium, c'est l'ingrédient qui sert à soigner les affections oculaires, même par lui-même, tout seul, d'après 2 ou 3 textes. S'ils sont sous, alors ceux qui sont sous forme liquide, ils étaient dans des petites fioles. Alors là, je pense qu'on arrivera à en trouver une quinzaine d'après les sondages que j'ai faits.
Et ceux qui sont sous forme de pâte, donc c'était des bâtonnets.
Ceux sous forme de pâte, ils étaient conservés dans les trousses là.
Oui, c'est ça.
Attendez,
Et ensuite on les broie.
Eh bien, ensuite, on prenait la petite... Ah, elle est revenue. Je ne l'avais pas surveillée, finalement. Et ensuite, il y avait...
On le broie dessus.
Des petites... Certains cachets, voilà. Ouais, celui-ci, par exemple, il a des chanfreins, donc on pouvait peut-être le broyer comme ça. Et puis sinon, certains ont des cupules qui sont, d'après la tracéologue, intentionnelles. Ça ne vient pas de la pierre. Et donc, on utilisait un instrument, malheureusement, je ne sais pas encore lequel. Il y a des sortes de petites spatules qui correspondraient bien. On en prend, on prélevait une petite partie, on la diluait dans du blanc d'œuf ou du lait ou certains ingrédients. Et puis après, on... Oui, bien sûr, oui. Oui, j'ai des textes. C'est ma seule spécialité, les textes.
Il y a beaucoup de textes.
Oui, qui n'ont jamais été traduits.
Ils sont difficiles à traduire, j'imagine.
Non, mais qui sont techniques, mais pas difficiles à traduire, mais... Il faut choisir, donc c'est parce qu'on choisit. Enfin, il vaut mieux traduire des textes littéraires, ça, voilà. Et puis, si on s'intéresse vraiment à la science d'une période, on est en général susceptible, capable de les traduire soi-même.
Jusqu'à l'époque moderne, avec les théories des ressemblances, des contraires, oui. etc. Mais il n'y avait pas que ça, parce qu'en non. réalité, on s'aperçoit qu'il y avait des choses tout à fait valables, j'imagine, dans les ingrédients qui entraient dans tout ce que vous avez énuméré. J'imagine que les hommes de l'art peuvent confirmer que ça fait du bien aux yeux.
Oui, dans certains cas,
c'est pas
oui.
seulement des trucs verts ou des trucs qui ressemblent à des grenouilles.
Oui.
Voilà.
Oui, dans certains cas, ça fonctionne. Oui. Et j'essaie de vous trouver une trousse. Il y avait des choses nocives, mais pas que.
Nocives, hein. Ouais. Parce que dans la fabrication du plomb, je me demande s'il n'y avait pas de... Il n'y a pas parfois de... Alors, le plomb en particulier.
Oui.
Ah oui, il y a le cinabre.
Voilà. Le cinabre, oui.
Le plomb et le cuivre, c'est toxique aussi, à votre grande dose. Voilà. Les métaux lourds sont...
Oui, mais c'est...
Donc, on oublie... On est obligé de s'arrêter là, je suis désolée. Voilà, merci
voilà,
beaucoup.
Ils étaient conservés là-dedans, dans D'accord. ce type de boîte. Voilà,
merci beaucoup, Maria Labonelli. C'était passionnant. Merci infiniment.
Merci à vous.